Merci beaucoup pour cette présentation donc de votre travail d'écrivain. Alors bien sûr, je vais donner la parole à la salle, mais je voudrais faire deux petites remarques peut-être préliminaires. Justement, c'est cette opposition numérisée-numérique, et dans votre écriture, vous jouez sur ce qui est numérisé, enfin, par exemple les factures que l'on voit, les textes, oui, les premières de journaux, et ce qui devient littérature numérique. Oui, alors, par rapport là-dessus, donc peut-être qu'on va reparler ça là-dessus. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était le côté sonore. Lorsque vous lisez les textes, je retrouve certains, presque une mélodie dans le phrasé.
Oui.
Mais c'est peut-être un trait, très personnel. Mais je trouve de la mélodie. Je trouve qu'il y a un côté chant dans la lecture de ces énoncés qui sont rajoutés et qui transforment l'écrit numérisé. Mais peut-être que je me trompe. J'ai eu l'impression qu'il y avait cette diction qui est peut-être poétique. Enfin, avant, on avait une manière de lire le vers.
Oui. Enfin,
c'est ce que je veux dire. Là, c'est pas des vers,
oui,
mais il y a une diction particulière avec un rythme, avec des pauses. Avec, donc il y a ce côté mélodique, rythmique, dans la façon de lire.
Oui.
Bon, il faudrait peut-être enregistrer. Non, voilà.
Bon. Je sais pas.
Je vais donner la parole. Parce que que...
Non, vous voulez que je réponde?
C'était un sentiment que j'avais sur. J'ai retrouvé ce côté presque poésie sonore. Voilà, pour aller jusqu'au bout, je dirais qu'il y a presque un côté poésie sonore dans cette poésie qui est très écrite. Voilà.
Oui, Xavier, juste deux questions et une remarque. On continuera après autour d'une bière ce soir. Première question, donc tu as intitulé ton intervention « Écrire en quatre dimensions ». La quatrième dimension, c'est celle du temps, hein, tu as présenté ça comme une composante de l'œuvre, mais il y a aussi l'œuvre dans le temps.
Oui.
Et quand on regarde ton travail, par exemple les premières créations, les 10 poèmes en quatre dimensions, on s'aperçoit que ça fonctionne sur Explorer, mais pas sur les autres navigateurs, ou du moins pas parfaitement, ni sur Chrome, ni sur Firefox. Le livre des morts, il y a toute la partie qui était la plus interactive avec la salle de lecture qui ne fonctionne plus. Et j'ai été étonné, donc cette fameuse labilité du dispositif, j'ai été étonné que tu n'en parles pas, un peu comme si tu l'évitais, comme tu le fuyais, comme si tu le fuyais, tu as dit, bon, c'est amputé d'une partie, ou ça fonctionne, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le prendre également en compte, je ne sais pas, dans une sorte d'esthétique, comme dirait Alexandra, de l'éphémère? Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'on n'est pas obligé, nous, en tant que créateurs, de prendre en compte aussi cette labilité, hein, le temps de l'œuvre? Hein, ce que le temps fait aussi à l'œuvre dans le numérique, parce que c'est une question importante. La deuxième question, en voyant l'ensemble là, de ta création depuis le début, j'ai eu l'impression, et c'est pas du tout une critique, hein, que les premières créations étaient très interactives, ou jouaient beaucoup avec l'interactivité, et les dernières beaucoup moins. Et la remarque là de Martin était intéressante. Finalement, est-ce qu'on n'est pas passé un peu de la littérature numérique à la littérature numérisée, au sens où tu joues beaucoup avec le support papier? Hein, le principe du palimpseste, de la réécriture, voilà. Et est-ce que finalement, ce qui t'intéressait ou ce qui t'intéresse le plus dans le numérique, c'est pas forcément la dimension interactive, mais plus la dimension de l'accès, hein, finalement, de la diffusion, de donner accès à un maximum de gens? Est-ce que c'est pas plutôt cette dimension-là, plutôt que l'interactivité qui t'intéresse? Et la remarque, c'est sur ta conclusion. Je pense qu'il faut pas attendre de M. Gallimard qu'effectivement, il comprenne où vont les expérimentations de littérature numérique. En revanche, il y a des petites maisons d'édition comme Storylab. On avait assisté à la Gaieté Lyrique avec Alexandra, une présentation donc de Storylab, qui présente en ligne à la fois des récits qui sont des récits numérisés, en fait, hein, qui viennent de la littérature traditionnelle, hein, sur tablette et sur smartphone, mais aussi des récits interactifs, et donc une forme d'hybridation un peu des deux types de littérature, hein, à la frontière s'estompe entre littérature numérique et littérature numérisée, et je crois que les choses bougent. Contrairement à ce que tu as laissé entendre à la fin, je crois qu'il faut être plus optimiste, et qu'évidemment c'est long, mais que voilà, le processus est enclenché.
Donc, je vais procéder par ordre. Donc, le temps de l'œuvre, ce qui ne marche plus. Donc, il y a un fait que je m'éloigne un petit peu de la littérature numérique, c'est vrai. Donc, je suis moins attentif à ce qui peut arriver à certaines de mes œuvres. Parfois, il y en a qui disparaissent. Donc bon, sans que ça me pose trop de soucis, hein, parce qu'il y a une dimension aussi d'œuvres éphémères, même si là je vois bien qu'elles sont pas si éphémères que ça, puisque la première a été mise en ligne il y a 12 ans et elle fonctionne toujours. Donc l'interface du livre des morts, donc qui permettait au lecteur d'écrire à l'intérieur de l'œuvre en répondant à un certain nombre de questions, donc ne fonctionne plus. Donc on a trouvé personne pour réparer ça. Donc voilà. Donc ni Gérard ni moi n'avons les moyens de payer un informaticien pour remettre en place une base de données. Donc voilà, on a décidé de faire une page d'accueil qui passe sous silence cette interface qui existait avant, hein, qui fonctionnait, et puis qui, comme c'est du PHP, donc c'est qui est un langage un petit peu instable, enfin donc voilà, là on a décidé de faire l'impasse dessus. Bon, régulièrement on me dit il faut le remettre en place, telle institution me dit on va l'héberger, on va vous donner les moyens. Bon, moi j'attends toujours, donc voilà. Quand quelqu'un voudra s'en charger et d'apporter son aide, moi je suis ouvert, mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup d'autres choses à faire, donc je peux pas m'occuper de ça, voilà, concrètement. Donc c'est vrai que un certain nombre d'œuvres en ligne disparaissent, et ça c'est vrai que ça pose un problème aussi par rapport à la critique, hein, parce que donc on a des ouvrages critiques qui parlent d'œuvres qui ne sont plus en ligne, et donc la critique quand même nécessite que le lecteur puisse confronter sa lecture en premier de l'œuvre à la critique qui en est faite. Non, tu n'es pas d'accord. Bon. Et enfin bon, moi je pense que si on ne peut pas avoir accès à l'œuvre initiale, c'est difficile de donner tout crédit aux critiques.
Eh bien
pas.
Non, parce que dans ce cas, on ne peut pas non plus faire de critique de théâtre ou de danse, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ah oui, parce qu'en fait ça montre justement le caractère performatif aussi, dans le sens de performance, hein, de la littérature numérique. Hein. Et en fait, ce que je pense par rapport à la décision que vous avez prise concernant le livre des morts, c'est au contraire que, en fait, quand il y a eu des choses qui ont fonctionné pendant un certain temps et qui ne fonctionnent plus, la meilleure solution, c'est soit de les laisser telles quelles, de les laisser en dysfonctionnement. Même, c'est un propos radical pour le coup. Hein, c'est pour le coup vraiment un propos esthétique radical. Mais je pense qu'il faut les laisser soit telles quelles, soit alors rajouter un commentaire et expliquer ça ne marche pas, mais ça a existé. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de là-dedans, même qu'on peut explorer d'un point de vue artistique, et qui est du côté, si j'ose dire, de la spectralité. C'est-à-dire, j'ai remarqué que, en fait, il y a maintenant des discours critiques qui s'accumulent autour des œuvres numériques et qui parlent de choses qu'on ne voit parfois plus. Et c'est un effet qu'on peut regretter ou qu'on peut valoriser au contraire, comme quelque chose d'interpellant. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on peut même explorer artistiquement et articuler avec une pratique qui, du coup, s'intègre comme la pratique de certains mandalas qu'on fait avec du sable. Voilà, c'est ça. Ou certaines créations en papier qui, petit à petit, s'effritent, se décomposent. On peut intégrer ça même dans sa pratique. Mais sans aller jusque-là, je crois que il est à peu près illusoire de vouloir combattre à 100% cet effacement, et il est encore peut-être plus problématique d'effacer son existence même en n'en parlant plus. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est quelques réflexions comme ça que j'ai envie, de donner, sans parler de ma propre pratique, qui, elle, intègre vraiment cet éphémère en son cœur même. Parce que moi, je m'efforce en tout cas, et quitte à me mettre moi-même en risque, hein, en tant qu'auteur, ou voilà, de laisser ça partir, hein, petit à petit. Hein, et d'abandonner ça au flux du numérique, au changement. Et si ça s'effrite, c'est ainsi. hein, et ça aura vécu son temps. Et après, avec un peu de chance, il y aura peut-être des témoignages, hein, des, à travers les textes critiques, à travers peut-être mes propres témoignages. Et c'est une autre façon d'aborder les choses et qui, du coup, me rappelle plutôt, par exemple, si tu visites un musée que je trouve très, très impressionnant à Vienne, en Autriche, le musée d'art contemporain, il y a tout un étage qui est consacré à l'actionnisme viennois. Et c'est très impressionnant parce que c'était pourtant des pratiques qui étaient vraiment inscrites dans la chair et dans une réflexion sur la matérialité. Mais ce qu'on voit maintenant, on y a accès à travers les témoignages, à travers quelques vidéos qui sont très évanescentes. Et il y a là quelque chose à creuser, à réfléchir, à mon avis.
Oui, donc deux choses par rapport au livre des morts. Le fait de laisser les questions donc en ligne, il y avait, donc pour être plus clair, il y avait 5 questions à la fin de chaque chapitre, donc en tout 35 questions qui évidemment avaient à voir avec le parcours de vie de celui qui lisait le livre des morts, enfin qui le parcourait. Donc à partir du moment où la base de données ne fonctionnait plus, où on ne pouvait plus écrire et enregistrer ses écrits à l'intérieur de cette base de données, ça nuisait au déroulement de l'œuvre. Enfin, puis moi, ça me chagrinait tellement que ça ne fonctionne plus et que je ne trouve personne pour réparer cette base de données que, bon, pour moi, et pour Gérard aussi, c'était assez attristant de voir ça. Donc, on a préféré le supprimer. Donc, par ailleurs, sur la critique d'œuvre qui n'existe plus, bon. Toi, tu en parles, donc je pense à une critique d'une œuvre en ligne que tu as faite. Tu en parles en connaissance de cause, puisque cette œuvre, tu l'as vue, moi aussi je l'ai vue, mais elle n'existe plus. Alors imagine dans 10 ans, un jeune étudiant de 20 ans qui lit ta critique, parce que tu seras toujours lu dans 10 ans, et qui n'a pas accès à l'œuvre. Comment, qu'est-ce qu'il va penser ?
Moi, j'ai un élément de réponse. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Alexandra parce qu'en fait, ça ouvre une perspective pour moi sur l'art du numérique comme un art vivant, comme il y a un spectacle vivant. Et il y a beaucoup de gens qui réagissent, qui gardent des traces de critiques qui ont été faites sur des spectacles qui ne sont faits que pour être éphémères et qui, à travers ces traces des spectacles, réinterrogent les textes. Et les réécrivent avec le corps et la voix d'autres acteurs. Je trouve que c'est une perspective, enfin moi c'est une perspective qui me touche et qui me parle vraiment sur les questions qu'on se pose aujourd'hui sur qu'est-ce que l'art numérique. Et ben c'est un art vivant, c'est un art de l'éphémère. Ça me paraît très beau parce que ça lui donne une dimension humaine qui est moins figée, enfin j'ai envie de dire sèche que la machine. Je trouve ça. Voilà.
Oui, disons que moi, c'est vrai que je me place plus dans une continuité de l'écrit. Moi, je suis toujours très très ému quand je lis des écrits qui ont plus de 2 millénaires. Donc, je prétends pas que ce que j'ai mis en ligne sera toujours lu dans 2 millénaires. Mais bon, cette permanence est aussi permise par les technologies numériques. Donc, moi, c'est plutôt cette permanence qui m'intéresse dans un certain nombre de choses que j'ai faites, pas tout, parce que j'ai fait beaucoup de choses dont je sais même plus où elles sont, etc. Donc ça, c'est vrai que de ce point de vue-là, bon, le côté, comment dire, éphémère, art vivant, quelque chose qui a à voir aussi avec la littérature orale, donc peut me toucher. Mais pour d'autres œuvres, non, absolument pas. Je veille en quelque sorte à quand même à ce que ce soit toujours lisible, toujours en ligne, parce que oui, une permanence de l'écrit. Bon, quand on lit toujours, je sais pas moi, Eschyle de nos jours, bon voilà, ça a plus de 2 millénaires, c'est toujours bon. Donc pour finir de répondre, alors sur l'interactivité. Donc l'interactivité en soi m'intéresse pas plus que ça, hein, donc que ce soit numérique ou que ce soit interactif, pour moi c'est pas une fin en soi. Bon, il y a un moment aussi, il y a un moment de prise en main de technologies nouvelles qui qui crée un certain enthousiasme, hein, donc on découvre ces nouveaux outils, on a envie de s'en servir, et donc effectivement on va explorer un certain nombre de directions, hein. Donc il y a un moment d'enthousiasme par rapport à cette nouveauté, mais moi c'est vrai que j'ai quand même une culture littéraire, on va dire, classique, et je reviens quand même toujours au texte, oui c'est sûr, je reviens toujours au texte, et l'interactivité ne m'intéresse pas tant que ça, parce que bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin ce matin, il y a eu beaucoup de mirages autour d'un certain nombre de prises de position et de mantras un peu faux comme ça. Donc voilà, moi je m'en méfie beaucoup, et c'est vrai que bon, actuellement par exemple, je lis la littérature latine. Voilà, bon, c'est donc effectivement, je suis un peu loin de la littérature numérique, et c'est vrai que bon, l'interactivité ne m'intéresse pas plus que ça, quoi. Donc ensuite Gallimard et Story Lab, bon oui, là je demande à voir, hein, donc là je n'ai pas de contact avec Story Lab. Bon, je vois de temps en temps des éditeurs qui me disent, ah oui effectivement, on voudrait bien, c'est intéressant, etc. Bon voilà, j'attends toujours, mais je suis pas persuadé non plus que ça puisse vraiment s'inscrire dans un modèle éditorial, hein. Donc est-ce que pour moi, que ce soit des œuvres en ligne qui sont vues, qui sont appréciées, etc., c'est amplement suffisant. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit édité? Bon, si le travail d'édition évidemment amène quelque chose d'autre, donc oui, pourquoi pas. Mais si ce travail d'édition doit amener à ce que une partie de la littérature est devenue, c'est-à-dire une littérature d'éditeur et non pas une littérature d'auteur, là non, j'en vois absolument pas l'intérêt. Donc la promesse initiale de l'Internet dans les années 90 et 2000, pour moi, elle est toujours valable. Être soi-même, son auteur, son metteur en scène, son personnel technique, son éditeur, son hébergeur. Donc c'est toujours quelque chose de valable, oui.
Oui, ce qu'il est en train d'évoquer, c'est qu'est-ce qui résiste. Et donc, en fait, l'évolution des technologies, des outils, des programmes, moi, me renvoie au film de l'obsolescence programmée. Peut-être que c'est un film que vous avez peut-être vu. C'est-à-dire que la société industrielle produit des dispositifs qui sont faits pour devenir obsolètes assez vite. Et donc, j'évoquais, sauf erreur hier, le livre de Paul Fournel, donc la liseuse qui se réapproprie qu'est-ce que changerait éventuellement la tablette par rapport au livre, et il revient au livre. Donc, il y a quelque chose qui se joue, et dans un jeu dans lequel nous tentons de résister de l'héritage d'humanité, hein, comme vous parlez, ou de la littérature classique. Et quand elle traverse cette histoire avec les nouvelles technologies, ça pose un problème de comment la société industrielle se prête ou pas, et nous, quel rôle on tient dans cette histoire-là. Est-ce que je me fais comprendre?
Oui, tout à fait.
Oui. En tout cas, nous sommes. Enfin, en tête, tout de suite, j'ai Primo Levi, quoi. C'est-à-dire que l'humain va sûrement résister là-dedans. On ne sait pas bien comment, mais il va résister.
Oui, non, c'est sûr qu'il y a un problème de... Bon, là par exemple, ça a été l'illustration. Bon, ce que j'ai fait, donc, avec les outils qui étaient les miens au début des années... Enfin, à la fin des années 90, donc, c'était destiné au navigateur le plus répandu à l'époque, Internet Explorer, et ça ne marche pas avec, d'autres navigateurs. Donc, c'est sûr que c'est l'illustration du caractère assez contingent aussi, hein, de cette littérature numérique, puisque voilà, il lui faut un certain nombre de réquisitions techniques pour pouvoir fonctionner. Bon, si la civilisation technicienne que nous connaissons actuellement s'effondre, c'est sûr que toutes ces œuvres disparaîtront. Donc oui, il y a effectivement un côté très éphémère. Bon, on fait le pari que cette société technicienne va continuer à exister, mais
Je pense ce colloque il y a 2 ans sur les métamorphoses du livre et de la lecture, cette question avait été posée sur la solidité du support. Finalement, le papier, c'est extrêmement solide, ça résiste même très bien au feu. La pierre est aussi très solide. Par contre, effectivement, ce support informatique est extrêmement fragile. Et autre aussi fragilité, par exemple, les films, tous les films qui datent d'avant 1900 sont en grand péril. Et en fait, il faut les restaurer pour les stabiliser, sinon on va perdre tout ce patrimoine-là. Pardon ? Méliès, par exemple, voilà, par exemple, Méliès, voilà, effectivement. Peut-être que vous avez un mot à dire parce que vous avez fait ce...
Non, c'est pas à propos du colloque, c'est vrai, on l'a évoqué, on l'a même mis en exergue du colloque. Je pense à haute voix là. En vous écoutant, je me disais que qu'on est ici entre personnes plus ou moins initiées, en tout cas qui s'intéressent particulièrement à la création numérique. Il y a 2 aspects qui me semblent émerger, enfin 2 tendances. La première, c'est celle qu'on évoque depuis hier, c'est-à-dire c'est une création, une poétique, qui met l'accent sur, qui réfléchit, enfin qui est en même temps une réflexion sur les technologies et les supports qu'utilise la littérature. Et ça, on voit bien la filiation. C'est vraiment la conception avant-gardiste de l'art. Ce qui est plus important presque, c'est de voir quand on a une nouvelle technologie, un nouveau support, un nouvel outil, quelles sont ses potentialités du point de vue des langages, de l'expression, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et donc l'objectif, le premier objectif, c'est de réfléchir sur les outils qu'on utilise. Et de les mettre et de faire remonter les matérialités, comme disait Emmanuel, de faire ressurgir les matérialités. Et ça a une fin en soi. Donc, c'est vrai que dans le numérique, il y a cette idée d'éphémère. Il y a pas mal de poncifs déjà sur l'interactivité, l'inachèvement, Et c'est une conception qui se développe, qui a toute sa légitimité, qui est celle des avant-gardes, avec toutes les limites qu'on perçoit et qui sont celles aussi qui ont été critiquées par des poètes comme Yves Bonnefoy qui ont mis en cause aussi tout ce qui est poésie concrète ou qui finalement est le comble de l'abstraction. Et puis il y a cette volonté de faire réhabiter l'art par l'humain. Donc tout le courant humaniste et du coup assez esthétisant aussi de la littérature, c'est-à-dire que en ce moment on est en train de, enfin c'est, j'en connais peu mais j'ai vu ça un peu par hasard sur internet, je suis tombée dessus, il y a des petites entreprises qui fabriquent de la littérature numérique, c'est-à-dire c'est pas des textes, ce sont pas les livres numérisés, mais qui conçoivent des textes, enfin des productions spécifiquement pour ce nouveau support. C'est-à-dire que là, on ne s'interroge plus sur le support, on exploite toutes les dimensions du support, l'image, le son, et on a des petites équipes comme ça où on a des graphistes, des illustrateurs, enfin des gens de différents milieux, des écrivains, mais qui conçoivent le texte, qui écrivent le texte en le concevant pour son support et qui, sans s'interroger, hein, pour en faire une œuvre, véritablement une œuvre, avec, et le côté avant-gardiste disparaît. Donc moi je crois qu'il y a ces 2 tendances-là. On a évoqué depuis hier, on en a évoqué qu'une, mais votre cheminement est intéressant parce que finalement, au fond, vous, après cette découverte, cet engouement, cet enthousiasme du nouvel outil que vous avez exploité dans toutes ces dimensions, l'interactivité, le mouvement, l'inachèvement, etc. Maintenant, vous revenez, mais vous en êtes à un stade où c'est plus très, ça qui est important. Ce qui est important pour vous, c'est de créer une œuvre ou de revenir à une pratique humaniste de la poésie ou de la littérature. Il me semble que là, il y a un moment où on s'est approprié et on n'a plus besoin de revendiquer ce côté novateur de l'outil. C'est intégré.
Si je peux me permettre, puisque vous faites allusion à Méliès, par exemple, c'est vrai que Méliès aussi, nouvelle technologie, enfin donc du cinéma, qui se définit comme un magicien, un illusionniste, qui va essayer d'exploiter toute cette technologie du cinéma, enfin tous les dispositifs, tous les trucages, etc. Mais en fait, il a aussi filmé l'affaire Dreyfus. Enfin, il y a des films politiques, peut-être minoritaires. Mais donc, c'est très très difficile, effectivement, de faire peut-être une séparation très tranchée, enfin entre ces deux tendances, même si elles sont là, effectivement. Je pense que c'est, enfin, en tout cas, enfin c'est quand même assez jeune. La réflexion est quand même assez jeune sur ces nouvelles technologies. Hein. Donc, je pense que ça va dans le même sens.
Par rapport à la question de l'éphémère et par rapport, alors c'est vraiment le néophyte hein, qui parle, mais sur cette littérature numérique qui serait plus enclin vers la performance. Et tout à l'heure vous mentionnez la danse. Et bon, se pose la question. Il y a des traces, il y a vidéo danse, et il y a de plus en plus un répertoire en danse. On a quand même un peu bousculé un peu Dominique Bagué et ses carnets qui disaient que c'était impossible de rejouer comme lui, etc. Et on refait du Dominique Bagué à l'heure actuelle avec des compagnies, etc. Donc est-ce que ces lectures performances ne seront pas un jour dans un répertoire et on pourrait rejouer ces performances, ces lectures? Parce que la performance Gina Payne, c'est très difficile quand même à refaire. C'est Gina Payne, quand elle se met des épines de rose ou l'actionnisme viennois que vous avez cité tout à l'heure, ça je peux comprendre. Mais si on est dans la littérature numérique, je pense qu'il y a quand même une reproductibilité possible. Après, ça dépend des champs d'expérience, mais je pense qu'il y a quand même un panel, un éventail de possibles. Qu'on ne peut pas limiter uniquement à la performance. Parce que vous voyez, ce matin, je parlais de Jean-Marie Dlaize. Il déteste le théâtre. Et il fait des lectures, mais personne ne peut lire à sa place un écrit de lui. Il y a eu une mise en scène. Tarnac a été mis en scène. Ce n'est pas une mise en scène, c'est une proposition. Je ne me rappelle plus le nom de proposition. Voilà. Mais je pense que quand il sera vraiment mort, il y aura. Non, mais excuse-moi, mais. Non, mais c'est posthume, mais. Il y aura. Non, mais. C'est un ami en même temps, donc je peux me permettre. Mais que des gens oseront relire des thèses de Jean-Marie Dlaize. De son vivant, ce n'est pas possible. Il n'accepte pas. Parce que pour lui, c'est un acte solitaire de lecture. On lit sa poésie individuellement. Si quelqu'un la lit, il est le seul habilité parce que c'est une performance pour lui. Et il se place dans les pas de Gina Payne en tant que poète contemporain. Pour lui, voilà, pardon. Ah, voilà, non, mais je vais peut-être laisser répondre à Alexandra sur son...
Donc, je rebondis là-dessus, je prends le micro à Constance, parce que ça concerne directement l'échange auquel on assiste. C'est la question de la mémoire que tu posais, Martine. L'idée qu'effectivement, on croyait que le numérique, ça allait être extraordinaire pour préserver les contenus. En fait, c'est un enfer. Hein. Moi, j'ai un collègue qui dit, si vous voulez perdre un contenu, numérisez-le. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir le relire, le rejouer, etc., 10 ou 15 ans après. Et donc, la valeur ajoutée du numérique, elle n'est pas du tout de ce côté-là. Mais au contraire, de nous faire basculer dans une autre conception de la mémoire, qui n'est plus une mémoire stockée. On stocke un ouvrage sur une étagère d'une bibliothèque, mais de la mémoire réinventée. Et comment on réinvente une création? Comme le dit Alexandra, avec l'approche par le cycle de vie de l'œuvre. Voilà, on garde toutes les traces. Ou là, c'est encore évidemment un peu... de l'ordre du fantasme, mais l'équivalent d'une sorte de partition hein, pour une œuvre qui nous permettrait après de la réinventer, de la recréer, de la reperformer. Mais on va un peu dans ce sens-là. Et ce que je voulais aussi juste répondre à Catherine, c'est que, alors, je souscris à ce qu'a dit Alexandra, donc la réponse d'Alexandra, le fait qu'il y ait plus un continuum que vraiment de façon tranchée cette antithèse entre deux tendances, une qui serait un petit peu expérimentale, qui n'expérimenterait que l'outil et pour un public très confidentiel avec des raisons plus ou moins obscures, et puis une autre qui serait plus grand public et qui serait, comme tu l'as dit, un peu humaniste. Je pense que pourquoi il y a un continuum, c'est parce que les expérimentations qui se sont menées, qui continuent à se mener, en fait, nourrissent et inspirent des créations entre guillemets plus grand public, qui se pose peut-être moins la question du dispositif, mais je crois qu'Alexandra, comme moi, c'est pas forcément le dispositif en tant que tel qui nous intéresse, mais le rapport, justement, la tension entre numérique et création littéraire, entre effectivement ce que peut apporter le dispositif et le contenu. Et le contenu, tu vois, quand on parle de récit interactif, c'est comment est-ce qu'on raconte avec ça, avec de l'interactivité, en ayant bien conscience, évidemment, du mirage aussi que peut produire l'interactivité, comme tu l'as souligné. Moi, je vois vraiment plutôt un continuum, et voire même une circulation maintenant, parce qu'on regarde également ce qui peut se faire sur les tablettes en tant que, par exemple, moi je m'intéresse au récit interactif, et maintenant, de façon rétroactive, ça m'inspire aussi. Donc je ne verrais pas forcément, tu vois, deux tendances très très tranchées entre des choses très expérimentales, très avant-gardistes, que personne ne verrait, et qui seraient voués à disparaître, et puis maintenant quelque chose qui effectivement serait plus mainstream et qui aboutirait à des créations qui ne seraient pas forcément réflexives, parce que les gens ne se posent pas forcément la question de l'outil, mais plutôt effectivement de dispenser des contenus. Je caricature un petit peu, mais...
C'est une société suédoise et une compagnie anglaise qui ont décidé donc de s'unir pour travailler, pour repenser le livre numérique. Un livre dédié à ce type de support qui est la tablette. Et ils fabriquent des livres pour tablette uniquement. C'est totalement... Et là, le but, ça n'est pas du tout d'avoir... C'est pas du tout une démarche artistique, créative d'avant-garde, mais ça utilise totalement toute la technologie pour faire un livre d'un nouveau type. Et je ne sais pas si on peut le regarder sur Internet, mais je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Mais si, c'est sur YouTube, alors c'est facile. Si on peut être sur YouTube, et on voit vraiment...
Mais je vais être extrêmement frustrante encore une fois, hein, parce qu'il faudrait donner le dernier mot à Constance, et puis donner la parole après à Alexis.
Parce que, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les questions qu'on se pose, tout le monde ne se les pose pas de la même façon aujourd'hui. Il y a en fait des gens qui réfléchissent à un nouveau type de livre sans pour autant avoir toute cette réflexion esthétique sur la technologie, qui utilisent totalement la technologie, mais qui n'ont pas ça veut pas dire qu'ils ne la ça veut dire qu'ils ont déjà dépassé un certain, ou ils ont dépassé, ou ils sont en deçà, je ne sais pas. Moi, je ne juge pas esthétiquement, mais c'est vraiment autre chose, démarche.
C'est quoi, c'est Paper?
Paper Cut.
Cut?
Oui, cut, comme coupé. Paper, cut, le papier.
C'est-à-dire, moi, disons que je suis quelqu'un je suis assez isolé en dehors du circuit. Je veux dire, j'ai pas une université derrière moi, donc je suis un petit peu un électron libre. Donc, si vous voulez, moi, c'est vrai que je me suis servi de logiciels qui étaient les plus simples d'accès. Après, concrètement, je vis en Ariège, voilà quoi. Après, je veux dire, j'ai laissé un certain nombre d'écrits critiques dans lesquels je parle ce genre de préoccupations, mais après, je pense que c'est quelque chose qui sera pris en compte par des gens qui sont soit dans l'université, soit dans le domaine du logiciel libre. Moi, de ce point de vue-là, je suis simplement un utilisateur, donc qui subit l'évolution des techniques. J'ai travaillé avec Gérard Dalmont, qui en principe était beaucoup plus à même que moi à régler des problèmes techniques, donc lui il n'a pas pu les régler non plus, donc je suis assez démuni, si vous voulez, par rapport à ça, hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je m'éloigne un petit peu de la littérature numérique, hein. Peut-être que j'en ai fait un peu, j'en ai fait le tour, mais enfin bon, à mon niveau, voilà, j'estime en avoir fait le tour et être allé au bout d'une démarche. Hein. Enfin, je vous l'expliquais, ma démarche, c'est vrai que ça quand même, ça commence vraiment au 19e, quoi. Hein, donc, c'était vraiment ça le sens de mon travail. Après, l'interactivité en soi, vraiment, ça m'indiffère complètement. La dimension éphémère, c'est vrai que c'est pas mon problème non plus.
C'est bien ce que j'ai compris.
Chez des étudiants en art numérique, je leur dis, bon, l'art numérique, c'est bien beau, mais enfin, c'est pas ça qui va vous faire manger tous les jours. Donc, c'est vrai, hein, faut être assez réaliste. Donc, c'est vrai que c'est un domaine qui est quand même ultra... ultra peu sûr, quoi. Je veux dire qu'on est dans l'insécurité totale, quoi. Voilà, donc moi, ça, c'est fait. C'est vrai que ça m'a intéressé, cette insécurité, mais voilà.